Ce matin, j'aimerais vous parler à nouveau de la mission de Jésus à travers des paroles que lui-même a dites et qui se résument en trois mots. Je suis venu. Je suis venu. Jésus dira même « Je suis venu dans le monde ». Et cela me fait sourire parfois, puis en même temps ça m'agace, je dois vous l'avouer. Je me souviens de cette conversation entre deux chrétiennes qui concernait le carnaval, je ne sais plus, la ville avait un jour organisé un carnaval, et ces personnes étaient en train de parler du carnaval. « Oh là là, tu te rends compte, ils organisent un carnaval, oh c'est diabolique !» Et je pense que quand on est là, on en est là, on n'a pas compris grand-chose à l'Évangile. Parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que des fois, il y a des chrétiens qui se sentent un peu désincarnés. On dirait qu'ils planent au-dessus des airs. Ils sont pas vraiment dans le monde, ils vivent dans une sorte des éons. Je ne sais pas dans quelle stratosphère ils habitent, mais en tout cas, ils sont pas dans le monde. Or, Jésus a dit « Je suis venu dans le monde ». Il s'est incarné. Et pourtant, lui, il avait vocation à rester au ciel. Il avait vocation à rester dans la gloire des cieux. Il avait vocation à rester auprès du Père. Et pourtant, il est venu s'incarner sur cette terre. Et bizarrement, à l'inverse, il y a des chrétiens, ils se désincarnent. Ils n'ont pas, ils sont plus faits de chair ni d'os. Ils sont de purs esprits, loin du monde, loin de ses contingences, loin des besoins des autres même. Excusez-moi, mais le carnaval ou autre chose n'a que peu d'importance. Il y a un monde à gagner. Et comme l'apôtre Paul se faisait tout à tous, moi je vous dis que je suis capable de me déguiser en reine du carnaval si ça pouvait amener une âme à Christ. C'est juste une image. Je suis même prêt à me déguiser en Père Noël pour ça. Du moment que ça peut amener quelqu'un à Jésus. D'ailleurs, je l'ai fait. Je l'avoue. Et ça a bien marché d'ailleurs. Et vraiment, nous avons besoin de nous incarner dans les besoins de ce monde. C'est vraiment important. Le modèle, c'est Jésus. Il l'a fait. Alors pourquoi nous, on s'exclurait de cette mission? Pourquoi on s'exempterait même de devoir eh bien, marcher sur cette terre? Vous vous rappelez que James Irwin, le cosmonaute, il a dit « L'événement le plus important qui soit arrivé dans cet univers, c'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, et marcher sur cette terre de malheur. » Eh bien, Jésus, il est venu et il a marché sur cette terre. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai oublié la référence. Ça m'arrive parfois. Mais ça doit être dans Matthieu 26, par là. Non, c'est peut-être dans Jean, en fait. Chapitre 19 ou 18, voilà. Où il est question de Jésus devant Pilate. Et puis il va dire à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Amen. » Vous voyez, l'être humain, qu'il soit croyant, qu'il soit incroyant, eh bien, il a bien souvent un problème d'identité. On ne sait pas peut-être pourquoi on est né, on ne sait pas ce qu'on fait sur terre, on ne sait pas où on va non plus. En tout cas, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, et c'est ce qui doit nous entraîner dans la compassion, comme le disait notre sœur tout à l'heure, c'est que les gens, ils sont errants comme des brebis, comme le dira Ésaïe, errants comme des brebis égarées. Et voilà comment est ce monde. Alors, ils ont beau faire le carnaval et tout ce que vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils errent comme des brebis, et nous devons avoir compassion de leur errance, parce qu'elle était la nôtre auparavant. Et ça, nous avons parfois oublié que nous étions comme les autres, errants. Et rappelons-nous quand même encore ce matin que nous sommes des pécheurs perdus et que sans la grâce de Dieu, eh bien on ne serait pas là ce matin. On ne serait pas chrétien. On ne serait pas disciple de Jésus. Le croyant, parfois, il sait où il va. Il sait qu'il va au ciel parce qu'il est sauvé. Mais il ne sait pas toujours ce qu'il fait sur terre. Il ne sait pas pourquoi il est encore là. Et il ne sait pas toujours ce qu'il lui faut aussi sur la terre. Vous remarquerez que dans le dernier chant qu'on a chanté tout à l'heure, la prière du Notre Père, c'est « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Là encore, il y a l'incarnation à travers cette prière de Jésus. C'est sur terre qu'on est, frères et sœurs, ce n'est pas encore au ciel. La tête au ciel, les pieds sur terre. Assis dans les lieux célestes avec Christ pour puiser les forces nécessaires pour apporter ce qu'il faut sur cette terre. Nous sommes comme ce canal, comme cette tige dans laquelle la sève vient couler, mais nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes les pieds bien sur cette terre. Et nous avons une mission à accomplir. Si nous n'avons pas encore été enlevés, c'est qu'il y a une raison, et cette raison est la suivante, c'est que le monde n'a pas encore été gagné. Alors frères et sœurs, avant de parler du retour de Jésus, auquel je crois quand même, nous avons encore du boulot, du pain sur la planche, il y a une ville à gagner. Il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas l'Évangile. Alors nos préoccupations doivent être celles-là, et on va le voir. Elles doivent être de gagner des âmes à Christ. Si nous ne savons plus, si nous ne savions pas ce matin pourquoi on était sur terre encore en tant que chrétien, bien sachons qu'on a un boulot à accomplir, la grande commission des nations dont nous devons faire des disciples, c'est ce qui est écrit. Et il y a vraiment une raison de vivre pour le chrétien. Nous ne sommes pas là simplement pour goûter à la joie de Dieu. On pourrait très bien y goûter au ciel. Et nous y goûtons. Mais pourquoi ? Pour que ça déborde sur les autres. Et nous voulons que ça déborde. Jésus-Christ est celui qui fonde notre identité. Et il n'aurait pas pu fonder notre identité si lui-même n'avait pas la conscience pleine et entière de son identité. C'est pour ça qu'il dit à Pilate, « Toi, tu sais peut-être pas pourquoi tu es là sur cette terre, toi le gouverneur là, romain, mais en tout cas, moi je sais pourquoi je suis né, je sais ce que je fais sur terre et je sais où je vais. Je vais au Père, évidemment. » Et nous savons également, mais il y a parfois une déficience d'identité aussi chez le chrétien qui ne sait pas toujours quel est son rôle, quelle est sa place dans le corps de Christ. Mais Jésus est celui qui va fonder notre identité. Nous l'avons vu récemment au travers des vraies barrières intérieures que le Seigneur veut briser en nous. Il est le « Je suis » qui a parlé à Moïse du buisson ardent et qui lui a révélé son identité. Moïse est devenu cet homme patient, cet homme constant, persévérant, cet homme qui était le leader qu'il fallait pour Israël à un moment précis, mais parce qu'il a découvert le « Je suis » éternel qui s'est révélé à lui. Et Jésus est ce « Je suis » dont nous avons besoin. Il est le bon berger, il est la lumière du monde, il est le pain de vie, etc. Il y a sept « Je suis », je crois, dans l'évangile de Jean. Jésus savait pourquoi il était né, pourquoi il était là. Et il savait quelle était sa mission et où il allait ensuite. Et face au puissant gouverneur Ponce Pilate, un homme qui était réputé pour être cruel et cynique, selon les historiens, un homme qui, à un moment donné, d'après ce que l'on voit dans les évangiles, va penser avoir une quelconque puissance, quelconque influence sur Jésus, va réaliser à un moment donné qu'il n'en a aucun. Et croyant gracier le Fils de Dieu, croyant gracier l'innocent qu'il a devant lui, parce qu'il est persuadé évidemment de l'innocence de Jésus, et alors même qu'il proclame son innocence, il ne fait que provoquer la colère plus en plus intensive des religieux qui, eux, n'ont qu'un souci, que Jésus soit crucifié. Et ils vont faire pression sur Pilate, qui, malgré sa bonne volonté à ce niveau-là, n'a pas pu empêcher le procès et la mort de Jésus-Christ, et encore moins sa crucifixion, parce que Jésus était venu dans le monde pour cela. Et il a dit plusieurs fois, « Il faut que je monte à Jérusalem pour y souffrir de la part des princes, des principaux sacrificateurs, et pour aller sur le mont du Calvaire, mourir pour l'humanité. » Alors, qui est Jésus ? Et pourquoi est-il venu ? C'est la question à laquelle il répond lui-même en définissant sa mission là, à travers les fois où il a pu dire « Je suis venu ». Et j'ai décelé cette fois « Je suis venu », bien qu'il l'ait dit un peu plus souvent, mais nous pouvons concentrer certaines choses qui reviennent, qui sont redondantes. Mais il est d'abord venu sauver des pécheurs. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voyez, Jésus, dans ce contexte, appelle un collecteur d'impôts, nommé Lévi ou Matthieu, à le suivre. Ce collecteur d'impôts, il faut savoir qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, ils étaient considérés comme des collaborateurs du pouvoir romain, mais en même temps, ils étaient considérés comme des rebelles à l'autorité religieuse des pharisiens, parce qu'en fait, ils n'aimaient pas du tout les pharisiens, et ils n'obéissaient pas à leurs règles, et ils collectaient l'impôt sur les transactions commerciales de l'époque pour le compte de l'occupant romain, mais en même temps en s'octroyant une petite marge personnelle. Ils s'octroyaient une petite commission. Alors ils étaient à la fois considérés comme des escrocs, des voleurs, et en même temps comme des collabos, et puis en même temps eh bien, comme des rebelles à l'autorité religieuse. Ils étaient donc mal vus des religieux, qui pourtant ne valaient pas mieux, nous le savons, puisqu'ils ont fait de la maison de Dieu, une caverne de brigands, à un moment donné. Ils étaient plutôt dans le fait de faire peser des règles, des fardeaux pesants sur les gens, sur le peuple, tout en ne sachant pas eux-mêmes porter les fardeaux qu'ils imposaient aux autres, ces charges religieuses qu'ils voulaient faire porter au peuple. Il s'agissait de propres justes qui péchaient eux-mêmes. On le voit avec l'épisode de la femme prise en flagrant délit d'adultère, où Jésus va certainement révéler les pensées intérieures des pharisiens, puisque quand il va s'agir de lever la première pierre, de jeter la première pierre, les uns après les autres, ils vont partir, convaincus de péché. Alors, nous savons qu'ils obéissaient davantage à la tradition qu'à la loi et aux prophètes, finalement, et qu'ils avaient oublié le cœur de la Torah, le cœur de la loi divine, qui est la miséricorde, d'où cette parole de Jésus, « Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». En fait, les pharisiens se préoccupaient surtout de ce qui était extérieur. C'est pour ça que Jésus donnera cette image humoristique de ceux qui avalent le chameau, c'est ça ? Non, à chaque fois je me perds dans cette histoire-là, moi. Ils coulent le moucheron et ils avalent le chameau, voilà. C'était quelque chose d'humoristique. Si vous ne le saviez pas, Jésus avait de l'humour. Et il a donc utilisé une image humoristique à l'époque pour définir les pharisiens qu'il aimait bien taquiner, finalement. Alors, ils filtraient le moucheron, mais ils avalaient le chameau. Vous comprenez la signification de cette parabole. C'est qu'en fait, ils regardaient aux choses extérieures, aux choses qui n'ont pas une grande importance, mais ce qui venait de l'intérieur. Ce qui était important pour Dieu, ça les empêchait pas de pécher, ça les empêchait pas de travailler avec ces choses et de moins se préoccuper de ce qui était à l'intérieur de leur cœur que de ce qui était extérieur, ce qui était rituel, ce qui était légal. Jésus va donc indiquer quelle est sa mission. Lui, le rabbi, il est venu appeler des pécheurs. Et il l'a signifié, il l'a imagé, il l'a incarné. Comment ? En mangeant à table avec les publicains, avec les collecteurs d'impôts et avec les pécheurs. Et en Orient et en Israël à cette époque, manger à table, c'était quelque chose de très significatif puisque ça n'avait pas seulement une connotation de convivialité, être bien ensemble pour manger, mais ça avait une connotation religieuse. Parce que Jésus, il est accusé de manger avec des êtres impurs, de manger avec le bas peuple. Voyez, et de se laisser contaminer par ce peuple. Or, Jésus ne se laisse contaminer par personne, mais il est plutôt celui qui contamine par la sainteté, par la pureté, et ces hommes vont venir à lui, vont le suivre. Parce que l'attractivité qui était celle de Jésus, c'était son cœur de miséricorde, son cœur miséricordieux, l'incarnation de ce verset « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu appeler non des justes, mais des pécheurs. » Et Jésus est venu appeler des pécheurs. Et aujourd'hui, nous pourrions avoir, nous, la tentation, en tant que chrétiens, de nous croire une caste un peu privilégiée, une caste au-dessus de tout le monde. Alors c'est pour ça qu'on se permet de critiquer le carnaval ou je ne sais pas quoi, ce que les gens organisent dans le monde. Mais nous ne sommes pas une caste à part. Nous devons, comme Jésus, nous incarner dans le monde. Il faut descendre de votre petite planète, en fait, pour ceux et celles qui seraient sur une autre planète, bien évidemment, les autres n'étant pas concernés. Il ne faut pas généraliser en général une attitude. Mais nous devons en tout cas descendre de notre petite planète, de notre haute stratosphère, pour nous incarner dans le monde et aller manger à la table des pécheurs. Et manger à la table des pécheurs, pour Jésus, ça signifiait aussi accepter à sa table les pécheurs. Et Jésus, parce que nous étions nous-mêmes des pécheurs auparavant, nous a assis à sa table. Comme David un jour a assis cet homme qui aurait pu être rejeté parce qu'il avait un pied beau, cet homme Mephibosheth, qui était tordu de naissance finalement. Mais nous sommes tous des tordus de naissance. Le péché nous a tordus, nous a abîmés. Et Jésus a accepté à sa table, comme David a accepté à sa table Mephibosheth, les tordus de naissance que nous étions. Le péché nous avait tordus, nous avait abîmés, mais le Seigneur nous a accepté à sa table, la table du roi. Et là, ce n'est plus le roi David, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a accepté à sa table. Jésus est venu appeler les pécheurs, nous en étions et nous en sommes toujours, mais par sa grâce, nous avons été rachetés et nous participons à sa table. Et nous le signifions même, et nous venons de le signifier, au travers du repas de la Sainte Cène, la Sainte Table. Marc chapitre 2, verset 17, ajoutera au verset qui dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs », il ajoutera « pour qu'ils se convertissent ». Évidemment, le but de Jésus, c'est la transformation, c'est la conversion des hommes et des femmes qu'il invite à sa table. Des pécheurs, ces hommes, ces femmes abîmés par le péché, abîmés par ce péché qui fait manquer la cible, qui fait manquer le but. Le Seigneur, eh bien, vient et il va chercher ces personnes et leur dit « Suis-moi ». Et il a dit « Suis-moi » à Matthieu, à Lévi, et cet homme l'a suivi. Ce collecteur d'impôts pourtant préoccupé de percevoir les taxes et autre chose, eh bien, va suivre Jésus. L'attractivité de Jésus va être plus forte que l'appât du gain. L'attractivité de Jésus va être plus importante que la rébellion à l'autorité religieuse et va être plus forte que la collaboration avec l'autorité romaine. Parce qu'il y a un cœur miséricordieux qui se manifeste à ce moment-là, le cœur miséricordieux de Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus, et ça ne passe pas inaperçu aux yeux de Lévi. Et il va suivre Jésus. Comme cela ne nous a pas paru inaperçu non plus lorsque Jésus est venu nous chercher, que c'était lui qui avait raison de nous dire « Tu dois te repentir, tourner le dos à ton péché et venir à ma suite. » Ça ne nous a pas échappé parce que cela nous a été révélé et nous avons été à notre tour assis à la table du Maître. Alors notre mission, c'est encore d'aller chercher les pécheurs à notre tour et d'incarner la mission de Jésus en ne nous distinguant pas à un tel point des autres que nous vivons dans les éons, ou dans les airs, ou dans une sorte de haute stratosphère particulière, mais au contraire en allant chercher les gens là où ils sont. Même si parfois ça pue, il y a des situations qui puent, mais Jésus a été un jour devant Lazare, et c'était une situation qui puait. Ça faisait 3 jours que le corps était en train de pourrir. C'est écrit, ça pue. C'est parce que c'est bien traduit, hein. On met des beaux mots poétiques, mais ça puait. Et Jésus a amené la vie dans ce corps puant. Et nous sommes amenés, et nous sommes appelés plutôt à aller dans ce monde et à ramener les corps puants à la vie. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui puent. Situations de divorce, les familles monoparentales, l'homosexualité. Et on en passe, c'est des meilleurs. Mais nous devons aller vers les gens et les aimer tels qu'ils sont, comme Jésus l'a fait, et incarner sa mission. Pour quelle raison? Pour qu'ils se convertissent. Et en voyant le même amour qu'a manifesté Jésus de la part des chrétiens, le centre d'attractivité va rester le même parce que c'est Jésus qui se manifeste au travers de son Église, c'est Jésus qui s'incarne au travers de son Église. Eh bien, les gens vont venir à Jésus, ils vont reconnaître le même centre d'attractivité qu'ils ont vu il y a 2000 ans, que Lévi a vu il y a 2000 ans. Ce que Jésus est venu faire sur cette terre, c'est réconcilier le monde pécheur avec son Dieu et le ramener, ramener celui qui est loin à Dieu et le ramener tout près de lui. Dans Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul va éclairer cela en nous disant au verset 4, Éphésiens 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, voyez, ça revient, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La mission de Jésus était de rapprocher les pécheurs par son sang versé sur la croix. Il visait l'élément central, la conversion du pécheur, parce que Dieu ne veut pas que les hommes se perdent, mais il veut qu'ils parviennent à la repentance. Cela nécessite d'avoir un cœur miséricordieux en ce qui nous concerne. Attention à nous, ne devenons jamais comme les pharisiens, croyant être sauvés par autre chose que la seule grâce de Dieu, comme nous venons de le lire, croyant être les meilleurs au monde, the best. Nous ne sommes meilleurs que rien du tout. Nous sommes entrés dans un processus de sanctification progressive et nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes dans le perfectionnement des saints en Jésus-Christ. Et ce processus aboutira une fois que le Seigneur sera revenu et alors nous agirons parfaitement comme notre Sauveur. En attendant, nous sommes autour du Maître et on est appelé à ressembler au Maître, l'auteur d'un si grand salut. La miséricorde triomphe toujours de l'esprit de jugement sur autrui. Voyez-vous, un jour à Samarie, on l'a vu la semaine dernière, l'après-midi, on ne le reçut pas, est-il dit de cette ville de Samarie à propos de Jésus. Et peut-être que nous, on pourrait être tenté quand quelqu'un ne reçoit pas Jésus dans son cœur, dans sa vie, ne l'accepte pas tout de suite, alors que nous-mêmes, on a mis parfois, je ne sais pas combien d'étapes avant l'arrivée, hein. Et nous jugeons parfois des personnes en disant « Oh, ben celui-là, pff, on n'y arrivera jamais, quoi. » Eh bien, attention, parce que les disciples qui étaient avec Jésus ce jour-là, ils ont été animés d'un autre état d'esprit que celui de Jésus, qui était la miséricorde, et ils ont demandé au Seigneur de faire tomber le feu du ciel sur la terre, vous voyez pas ? Et c'était ce même Jean, l'apôtre, dont nous parlions la semaine dernière, dont nous disions qu'à 95 ans, on l'amenait encore dans l'église et il pouvait à peine parler et disait, animé de l'amour, fruit de l'esprit, eh bien, il disait, mes bien-aimés, mes enfants bien-aimés. Vous voyez, ces paroles d'amour. Mais avant d'être cet homme-là transformé par l'amour de Jésus-Christ, cet homme qui vivait au battement du cœur de Jésus, puisqu'il se penchait souvent sur son sein, certainement ayant distingué qu'en Jésus, il y avait quelque chose qui pouvait l'aider, eh bien, c'est certainement ce cœur miséricordieux de Jésus qui battait et qui l'entendait, eh bien, qui a permis à Jean d'être transformé, parce que c'était lui et son frère, qu'on appelait les fils du tonnerre, eh bien, qui souhaitaient que le feu du ciel fasse périr les Samaritains. Voyez comment Jean a changé, comment Jésus a transformé l'apôtre Jean. Jésus est donc venu sauver les pécheurs. La deuxième chose que j'ai vue, c'est qu'il est venu allumer le feu de l'évangélisation. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 Et au verset 49, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Jésus, c'est un pyromane acceptable. C'est le seul pyromane qu'on peut accepter. Jamais on va appeler les pompiers par rapport à l'incendie que Jésus allume. Parce que le feu de l'Évangile, c'est ce qui a besoin d'être allumé dans le cœur des hommes. Et Jésus est celui qui allume une flamme dans le cœur des hommes. Il allume une flamme quand la parole de Dieu est annoncée. Il allume une flamme quand l'Évangile est annoncé en tout lieu. Et il allume en tout lieu des brasiers de feu spirituel de l'Évangile pour que les hommes viennent à lui. Il a allumé le feu, le brasier du feu, du buisson ardent où Moïse a pu recevoir la révélation du Dieu éternel. Et de même, partout où il envoie, il allume des brasiers. Il envoie ses serviteurs, ses servantes pour allumer des brasiers dans différents pays afin que les hommes, les femmes assoiffés de vérité, de justice et désireux eh bien, de connaître Dieu puissent se laisser à leur tour enflammer. C'est ça que Jésus est venu allumer, le feu de l'Évangile. Voulons-nous recevoir la flamme de l'Évangile dans notre cœur? Voulons-nous la voir brûler de manière permanente, de manière durable dans notre cœur? C'est le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Évangile qui brûle la routine religieuse, frères et sœurs. C'est ça qui fait brûler la parole de Dieu dans notre cœur. Dieu est le Dieu qui répond par le feu de son Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Sommes-nous gelés ce matin? On pourrait, hein, parce qu'avec la température, parfois, on est en hiver quand même. Mais est-ce qu'il y a un hiver spirituel dans nos cœurs? Sommes-nous gelés dans nos cœurs? Ou nous sommes-nous attiédis? Il y a un remède, c'est de recevoir le feu de l'Évangile, la flamme de l'Évangile dans notre cœur. Et Jésus est celui qui fait fondre la glace. Il veut aussi nous communiquer le feu de sa passion pour les âmes. Les âmes qui ne connaissent pas, les âmes qui sont perdues. Il veut nous communiquer cette même passion qui lui fera dire « Regardez, la moisson est blanche. Regardez toutes ces les champs qui sont blancs pour la moisson. Et regardez toutes ces brebis qui sont errantes parce qu'elles n'ont pas de berger. » La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion. Il ne s'occupait pas du carnaval religieux. Il ne s'occupait pas du carnaval à Venise. Et il ne s'occupe toujours pas du carnaval à Venise. Il s'occupe des âmes qui sont vides, comme le disait notre sœur, à tel point que célébrer Noël, pour certains, est un calvaire, si je puis dire. Parce que peut-être c'est le souvenir d'une famille qu'on n'a plus. C'est peut-être le souvenir, pour certains, de deuil. Moi, je connaissais une famille chrétienne. Le fils, il est mort d'une balle perdue à cause d'un chasseur certainement bien imbibé et aussi avec de mauvaises intentions. Et leur fils, à la veille de Noël, eh bien, est décédé. Eh bien, malgré cela, cet homme, cette femme, ils ont la flamme, la vraie flamme de l'Évangile dans leur cœur et continuent à persévérer dans leur foi. Mais il est vrai que quelqu'un du monde n'aura pas cette même espérance et on peut comprendre que des gens, dans ces moments difficiles, dont on dit même que ce sont des moments propices au suicide, eh bien, puissent voir le désespoir geler leur cœur. Mais nous avons cette compassion qui vient du ciel et que nous sommes appelés à véhiculer sur cette terre, puisque nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu sur cette terre, afin qu'elle soit faite comme sur la terre comme aux cieux. Nous sommes appelés à allumer dans cette ville, pas plus loin, n'allons pas plus loin. Nous sommes appelés à allumer dans le cœur des gens que nous côtoyons une flamme. Et même si cette flamme, elle est toute petite au début, même si la flamme de l'Évangile que nous avons répandue nous paraît eh bien, n'être qu'une étincelle, peu importe, parce qu'à un moment donné, le brasier sera arrosé par le Seigneur. Et au moment voulu, au temps marqué, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu saura convaincre une telle personne de péché, de justice, de jugement, afin que cette personne se repente. Notre rôle se borne à annoncer, à témoigner, à donner de l'amour, à avoir tellement d'amour dans le cœur que nous allons même outrepasser, transcender notre timidité pour apporter l'espérance aux autres. Avec ce feu, Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse pour nous emparer des âmes. La Bible dit dans un proverbe, que le sage s'empare des âmes. Eh bien, nous voulons être sages. Et la sagesse pour nous consiste à nous emparer des âmes, en allumant, en communiquant le feu de l'Évangile dans les cœurs. N'ayons pas d'autres préoccupations. Je le disais à quelques-uns, pour avoir une explication franche et sincère sur un certain domaine, que nous, au lieu de nous préoccuper de choses extérieures, eh bien nous devons plutôt demander au Saint-Esprit, au lieu d'être négatif et d'avoir des raisonnements et des jugements sur les choses, plutôt de recevoir de sa part la créativité. Je connais un évangéliste qui, dans sa ville, la ville où Dieu l'avait placé, il a été voir le maire et il lui a demandé l'autorisation de faire une animation dans le but d'apporter la paix dans le quartier. Parce qu'il avait vu que dans le quartier, c'était pas trop ça. Et il est allé avec un carton. Il est allé avec plusieurs chrétiens et avec un carton, il s'est mis dans le carton. Et avec des chaînes pour symboliser l'homme perdu, l'homme esclave. Et puis comment, alors ils avaient écrit haine, vengeance, puis après derrière le carton il y avait pardon, etc., vous imaginez. Et puis l'homme qui sort subitement des cartons quand Jésus vient le chercher, vient le happer. Et ça a plu au maire, à tel point qu'il a même donné de l'argent avec la ville pour que ce genre d'action soit promu. Et c'est pas très loin d'ici, frères et sœurs, c'est dans l'Aisne. Vous voyez, la créativité pour annoncer l'Évangile. La créativité, c'est beaucoup plus dur que de critiquer. Hein. Avoir de la créativité, et nous devons la recevoir de l'Esprit de Dieu, recevoir cette sagesse qui vient du Seigneur. Allumer le feu de l'évangélisation, voilà un des buts pour lequel le Seigneur est venu, et un des buts pour lequel il continue d'agir. Ensuite, Jésus est venu, alors là, ça ne va peut-être pas vous plaire, parce que c'est compliqué, et c'est un peu délicat en même temps, mais c'est pourtant une réalité. Jésus est venu pour faire une œuvre de séparation, mais ça ne doit pas vraiment vous étonner, puisque le mot sanctification veut dire séparation. Cette œuvre de sanctification que Jésus fait, de mise à part, il nous en parle et nous dit qu'elle peut être sa portée, mais il nous dit aussi qu'il est venu pour cela. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, versets 35 à 39. Il va dire « Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra. Celui qui la perd à cause de moi la sauvera. » Voyez-vous, Jésus dit qu'il est venu couper en deux, séparer, c'est la signification du mot. Et c'est vrai que notre prise de position pour Jésus, à la suite de Jésus, peut entraîner cet effet, parce qu'elle entraîne une sorte de scandale. Jésus a dit lui-même qu'il serait un objet de scandale, une pierre de scandale, une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Une pierre d'achoppement sur qui on vient s'écraser alors même que nous sommes invités plutôt à venir. Enfin, une pierre d'achoppement qui nous écrase plutôt qu'une pierre sur laquelle on vient soi-même volontairement s'écraser comme l'aigle qui vient écraser son bec sur le rocher pour en avoir un nouveau. Et ainsi, l'homme qui ou la femme qui vient à Jésus sur le rocher des siècles et qui vient lui-même se briser le bec sur lui, eh bien, il naît de nouveau, il passe par la nouvelle naissance. Sans quoi Jésus dira que la pierre, elle vient nous écraser. Même si nous aimons notre famille, nous ne pouvons pas empêcher parfois cette séparation spirituelle, à moins de renier Jésus ou de faire des concessions. Hélas, dans le monde occidental, on est plus prompt à faire des concessions que dans certaines autres parties du monde. Vous avez peut-être vu ce film avec Portes ouvertes, sous le soleil, je crois, c'est. Oui, ou sous le rideau du soleil, ou quelque chose comme ça, où il y a un jeune musulman qui se convertit à Jésus en Amérique, et quand il revient dans son pays, il se cache au départ, mais quand son père s'aperçoit qu'il a une Bible, qu'il s'aperçoit qu'il est chrétien, il le met dehors. Il est banni et il se retrouve dans les rues du Caire, à errer, sans rien. et c'est quand il trouve une église où il y a des chrétiens qui peuvent l'aider, bien qu'il trouve une famille nouvelle. Mais en attendant, il a gardé sa position. Il a gardé sa position. Et voilà le prix que payent nos frères et sœurs d'origine musulmane lorsqu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Ils n'ont pas de choix à ce niveau-là, à moins que leur famille se convertisse, ce qui arrive aussi parfois. Mais en attendant, quand ce n'est pas le cas, eh bien, ces frères, ces sœurs précieux, eh bien, ils sont seuls. Ils sont séparés de leur famille, spirituellement parlant. Mais nous, dans notre petit confort occidental, on a encore des choix. Nous avons encore le choix, mais eux, ils n'ont pas le choix. Soit ils renient, soit ils font la volonté des hommes. Et nous, on peut encore faire des compromis. Sauf qu'aux yeux du Seigneur, nos compromis ne sont pas justes et ne sont pas bien vus du Seigneur, ne le croyons pas. Parce que Dieu ne fait pas de distinction entre celui qui prend position au Caire et celui qui prend position à Charleville-Mézières ou ailleurs. Nous sommes invités par le Seigneur à le préférer. C'est le sens du mot, le sens de ce verset. Préférer la volonté de Dieu à la volonté des gens de notre famille. On est invité à préférer la volonté du Seigneur à la chair, à ceux qui ne suivent pas Jésus. C'est dur, mais c'est la preuve aussi que l'on est un vrai disciple, à qui aucun non-croyant ne va dicter sa conduite vis-à-vis du plan du Seigneur. Vous savez, j'en sais quelque chose, parce que plus je me suis engagé avec le Seigneur, et plus notre famille s'est détournée de nous. En Occident, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, oui, c'est possible. Et vous le savez, certains d'entre vous en ont certainement fait l'expérience. Toute autre alternative que de prendre position pour le Seigneur est de la faiblesse coupable. C'est une tiédeur, une négligence vis-à-vis de Dieu. L'apôtre Paul donnera une explication, il dira « désormais », ce mot est important, « désormais », à présent, nous ne connaissons personne. Selon la chair. Mesurez bien les mots. Personne, même votre fils, votre fille, votre belle-fille, votre beau-fils, votre grand-père et tout ce qui s'ensuit dans les liens familiaux, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous sommes séparés spirituellement. Si notre grand-père est aussi notre frère en Christ, c'est super. Hein ? Là, il n'y a pas de séparation. Alléluia. Mais si tel n'est pas le cas, il y a séparation, peut-être provisoire. S'il y a conversion par après, c'est très très bien aussi. Mais nous sommes séparés. Et c'est une réalité et on ne peut pas la contourner. Et on ne peut pas ne pas s'engager à la suite du Christ pour ce prétexte-là. Nous devons préférer la volonté de Jésus. Des fois, ça va loin. Des fois, ça va loin. Je connais un pasteur belge qui a été obligé, bien que sa maman soit chrétienne, de faire passer un jugement au tribunal pour qu'elle n'ait plus d'autorité sur ses enfants. Parce que malgré qu'elle était chrétienne, elle a un comportement charnel qui fait qu'elle voulait prendre la place des parents dans l'éducation des enfants, mais à un point que vous n'imaginez pas, et il était obligé d'en référer à la justice. À contre-cœur, bien évidemment. Mais pourquoi ? Parce que bien, il y a cette séparation même avec le charnel et le spirituel. Et c'était difficile de faire cela, mais ils l'ont fait. Et imaginez, il est le pasteur de l'église et il y a sa maman dans l'église. Eh bien, c'est un vrai disciple de Jésus. Parce qu'au moins, il a même résisté à sa mère. Jésus n'a-t-il pas résisté à sa famille ? Ceux qui font la volonté de Dieu, oui, ce sont ma famille, dira Jésus pour résumer. Et à un moment, Marie et les frères de Jésus ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ils s'opposaient même à Jésus à un moment donné. Et il a pris position. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça, c'est une parole qui est souvent dure à avaler par les chrétiens. Mais nous savons qu'il y a plusieurs paroles qui sont dures à avaler. Dans Jean chapitre 6, Jésus parle et il a dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et plusieurs se sont enfuis du Seigneur, l'ont abandonné. Seuls sont restés quelques-uns. Nous ne connaissons personne selon la chair. Jésus dira lui-même, qui sait si tu sauveras ta femme ? Qui sait, toi, femme, si tu sauveras ton mari ? Hein ? Pouvons-nous encaisser cette parole, frères et sœurs, dans notre Occident d'aujourd'hui si confortable ? Ou bien comme pour les disciples de Jean, elle est trop dure, alors on ne peut pas l'écouter, alors on ne fait pas, on met de côté, on coupe quelques pages dans la Bible et puis c'est fini. Dans le monde musulman, dans le monde hindou, en Chine communiste, il y a un choix à faire et c'est le prix à payer pour le discipulat. En Occident, on n'est pas prêt à payer surtout le prix d'être un vrai disciple. À la moindre entorse, on est prêt à tout abandonner, l'Église, la prière, Jésus, on vit pour soi. À la moindre contrariété, hop, je me sauve de l'Église. Un membre de la famille que mon positionnement dérange, oh ben je vais me conformer aux membres de ma famille, va comme ça. Voyez-vous ? Et comme le diable, il y a parfois des chrétiens même qui vous disent, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Si vous savez combien de fois on me l'a dit ça. Mais voyez-vous, à force, on s'habitue. Et voyez-vous, j'ai compris la parole de Jésus à ce moment-là quand il dit à Pierre, cette parole arrière de moi, Satan. Mais il y a des moments quand certains chrétiens vous disent cela, vous comprenez que vous êtes dans le bon. Parce que, en dehors de l'équilibre évidemment familial qu'on doit avoir, etc., hein, je ne parle pas d'un déséquilibre où on ne vivrait plus, on ne prendrait plus soin de sa famille, on ne mangerait plus, on ne ferait plus rien de normal. Mais je parle de l'engagement à la suite de Jésus en tant que disciple. Eh bien, on entend parfois à travers des chrétiens même la voix de Satan qui nous dit « N'en fais pas trop. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» Eh bien oui, le jeu en vaut la chandelle. Et même si parfois j'ai l'impression de donner un coup de poing dans l'air, peu importe, parce que si c'est Dieu qui m'y conduit, j'y vais quand même. Et je préfère faire la volonté de Dieu que d'entendre cette tiédeur, cette paresse, cette négligence spirituelle transparaître et des chrétiens se faire la voix incarnée de l'ennemi parce qu'ils sont charnels, tout simplement, et parce qu'ils vivent pour eux-mêmes et aimeraient tellement qu'on fasse comme eux, qu'on les imite. Ça serait beaucoup plus confortable pour eux d'être dans l'Église si les pasteurs, si les frères engagés, les sœurs engagées font comme eux. Ils seraient plus dérangés dans leur cœur. Ils seraient plus dérangés dans leur petit confort spirituel, voyez-vous. Il nous faut, au contraire, sortir de notre zone de confort. Et le Seigneur nous le montre à plusieurs reprises. Et le montrera à ses disciples. Il y a des gens aussi qui sont prompts à s'enflammer, mais qui gèlent tout aussi vite qu'ils se sont enflammés. Puis des gens qui ont mis du temps pour s'enflammer, mais par contre qui restent fidèles et très longtemps, et jusqu'à toujours d'ailleurs, et qui sont persévérants, qui sont constants, qui sont prêts à tout, même à tous les sacrifices pour Jésus. Je les appelle les hommes de l'ombre, les hommes qui étaient à l'ombre de la croix. Il y en a un comme Nicodème. Au début, il était un peu timide, celui-là, dans Jean chapitre 3. Il vient le soir demander conseil à Jésus, et pourquoi qu'on le voit. Mais après, vous le voyez à l'ombre de la croix. Joseph d'Arimathée, autre pharisien, pareil, il est un peu dans l'ombre au départ. Mais à la fin, vous le voyez, et il prend le tombeau de Jésus et il réclame pour lui le corps de Jésus. Il se manifeste, il se manifeste. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ces hommes qui ont mis du temps peut-être à s'enflammer, mais qui à la fin sont prêts à tous les sacrifices pour le Seigneur. Rappelons-nous quand même ce que le Seigneur disait à la Odyssée, dans cette ville volcanique où on avait l'habitude de l'eau tiède. Apocalypse 3, verset 16, « Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Le Seigneur a horreur de la tiédeur, de la négligence, de la paresse spirituelle, de ces chrétiens qui disent « Il y a un lion d'or, je ne vais pas y aller. » Je me rappelle de ces 4 ou 5 pasteurs qui étaient en train de discuter avec moi. On était en train de discuter, puis j'étais frappé de la mentalité qui était la leur. Ils étaient en train de dire tous les obstacles pour ne pas aller dans la rue annoncer l'Évangile. Ils n'étaient pas créatifs. Ils étaient en train de répertorier tous les obstacles. Alors je les ai quittés parce que ça ne m'intéresse pas. Ce langage. Vous voyez, c'est important, la séparation spirituelle parfois, elle est de rigueur si on veut rester un vrai disciple. Jésus est venu pour amener aussi la séparation spirituelle. C'est dur, hein ? Et il a dit, hein, je suis venu diviser. Jésus est venu pour un certain jugement aussi. Dans Jean chapitre 9, verset 39, nous lisons, Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous voyez, il n'est pas venu juger le monde, il est venu pour le sauver. Mais il est venu, par contre, pour qu'un jugement spirituel ait lieu. Et il s'adresse là surtout aux religieux qui voyaient, parce qu'ils avaient une grande connaissance, et même la révélation de la Torah, mais leur cœur, malgré cela, restait incrédule. Et du coup, Cette incrédulité venait obscurcir le rayon de lumière qui passait à travers les paroles de Jésus, et ça les plongeait dans des ténèbres encore plus épaisses. Et ils sont demeurés dans ces ténèbres-là. Ils refusaient celui qui est la lumière du monde, celui qui, quand on le suit, eh bien, on n'est plus dans les ténèbres, mais on est dans la lumière. Il est venu pour éclairer ceux qui veulent bien sortir des ténèbres. Et c'est là qu'un jugement s'opère entre ceux qui acceptent de délaisser leur incrédulité, qui acceptent la parole de Dieu, qui accueillent doucement, avec douceur, comme les Thessaloniciens, la parole de Dieu pour qu'elle s'implante durablement dans leur cœur et puisse pétrir leur cœur. Et la lumière projetée par Jésus, eh bien, elle suscite un jugement. Soit on passe dans la lumière, soit on demeure dans les ténèbres. Et il n'y a pas grand commentaire à faire là-dessus. C'est quelque chose qui se produit là où il y a incrédulité religieuse, là où il y a incrédulité tout court. Eh bien, ce jugement s'accomplit. Et c'est une réalité. Jésus est aussi venu pour qu'il y ait cette distinction entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui s'attachent à lui, ceux qui ne s'attachent pas à lui, ceux qui croient en sa parole, qui l'acceptent, et ceux qui n'y croient pas et ne l'acceptent pas. Jésus est aussi venu pour nous apporter la vie abondante. Il dira dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur, en parlant du diable, vient seulement pour voler, pour immoler et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. » Imaginez que cette vie, elle vient du trône de Dieu. C'est la vie spirituelle qui existe de toute éternité, qui est celle même de Dieu. C'est la vie de l'Esprit de Dieu. C'est la Zoé en grec de Dieu. C'est une vie qui vient du ciel. C'est une vie qui vient de la présence même de Dieu, de son essence. Et cette vie-là, eh bien, Jésus vient nous l'apporter. C'est une vie extraordinaire. Le mot parle d'une vie extraordinaire. Abondance parle d'extraordinaire. C'est une vie qui dépasse nos besoins. Elle est surabondante. Et voilà que le bon berger offre à ses brebis non pas une vie étriquée, non pas une vie chiche et limitée avec des règles, légalistes, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais ne goûte pas ceci, ne goûte pas cela. Mais il vient avec sa surabondance, la surabondance d'une vie qui est appelée à déborder comme Dieu déborde de générosité. Amen. C'est cette vie-là que Jésus est venu nous apporter. Et cette vie-là, nous devons en vibrer. Cette vie-là doit nous combler. Et à un point que nous serons remplis de gratitude, de reconnaissance, à cause du débordement que cette vie et sa présence en nous va susciter. Amen. Nous avons besoin de cette vie abondante. Arrêtons d'être des pleurnichards, des mendiants de la foi, ou des mendiants de l'amour, pour la société Rico. Puisse un Rico, d'ailleurs, faire l'expérience du Messie aussi et de cette vie abondante. Mais nous, en tant qu'Arico de Charleville, eh bien, nous devons vivre de cette vie abondante. Amen. C'est important, frères et sœurs, ce matin, cet aspect-là aussi. Je suis venu. Imaginez que Jésus est venu pour cela et que parfois nous négligeons le but de sa venue en n'acceptant pas cette vie abondante. Il est venu pour cela. Comme il est venu pour nous sauver, certains n'acceptent pas le salut, eh bien, parfois nous n'acceptons pas la vie abondante, nous préférons pleurnicher. Nous préférons parfois que nos réunions de prière ressemblent à un mur de lamentation, alors que nos réunions de prière doivent ressembler à un combat dans lequel la proclamation de la victoire, la proclamation de qui est Dieu doit primer. Nous avons une mauvaise idée parfois de ce qu'est la prière, hein. Et puis, il y a ce but pour lequel Jésus est venu, Gethsémané et la croix. Dans Jean 12, verset 27, Jésus dira « À présent, je suis angoissé. Mon cœur est en émoi. Que dois-je faire? Vais-je dire, Père, épargne-moi cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour passer cette heure-là que je suis venu. » Vous avez vu toutes les heures que nous, on passe parfois à quelques tourments? Mais imaginez Jésus qui va connaître les tourments de son âme dont parle Isaïe. Une âme qui est pure, qui est innocente, qui n'a jamais quitté la gloire des cieux, qui n'a jamais connu la séparation avec la communion avec le Père, avec l'Esprit de Dieu. Gethsémané, c'est déjà la pensée de la croix, c'est déjà le dépouillement, c'est le lieu de l'acceptation par Jésus de la croix, là où il va aller pour s'immoler, pour se sacrifier, pour livrer sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. C'est un lieu de pression, c'est ce que voulait dire Gethsémané, le lieu du pressoir, un lieu où toutes les pressions, nous sommes nous-mêmes subis à des pressions, et nous devons regarder dans ces moments-là à Gethsémané, où Jésus nous a précédés en vivant la pression des pressions, la pression ultime, celle de savoir qu'à un moment donné, sur la croix, dans quelques heures peut-être, eh bien, il allait être séparé du Père. Le Père allait détourner ses yeux du Fils de Dieu parce qu'il allait être fait péché à notre place. Il allait se substituer à nous et l'horreur, la noirceur, les mots ne sont pas suffisants, du péché de l'humanité vont venir s'imputer sur Jésus. Et à ce moment-là, Dieu, dont les yeux sont trop purs pour voir l'iniquité, va devoir détourner de sa face du Christ qui est en train de souffrir sur cette croix. Et déjà, il souffre atrocement au niveau physique, mais je crois que la plus grande des souffrances du Christ est une souffrance morale et spirituelle, celle d'être séparé de son Père, car les heures qu'il a vécues séparées du Père sont des heures qui ont compté pour étant éternelles. Elles ont compté avec une valeur éternelle. C'est comme si Jésus avait vécu l'éternité sans Dieu en quelques heures, les quelques heures qu'il a passées en étant loin de Dieu. Quand on voit cela, nos petits sacrifices sont presque mesquins, frères et sœurs. Quand on voit l'ultime sacrifice de Jésus, nos petits sacrifices à nous pourraient paraître mesquins. Il a en tête à ce moment-là notre salut à tous. Son amour est en train de contempler la multitude des âmes qui vont être sauvées au travers des siècles et en même temps le coût du rachat de ces âmes, le prix à payer, être séparé pour la première fois du Père éternel. Les angoisses qui saisissent Jésus à ce moment-là sont d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. On ne peut pas concevoir cela parce que nous, on n'a jamais passé une éternité sans Dieu. Et pourtant, c'est pour cette heure qui concerne le salut de ce monde qu'il est venu. Le moment où il veut en même temps jeter le prince de ce monde dehors et établir son royaume d'abord dans les cœurs, puis plus tard de façon absolue et définitive lorsqu'il reviendra. Oui, Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Et nous devons ce matin, pour notre part, considérer ce prix payé. Nous devons relire la charte de notre engagement au travers des eaux du baptême, frères et sœurs. À la lumière du prix que ça a coûté à Dieu pour nous sauver, nous arracher à nos ténèbres, où judiciairement et légalement nous avions toute vocation à être, même si aujourd'hui l'accusateur des frères venait pour un pécheur qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, judiciairement, légalement, le diable est dans son droit. S'il dit à Dieu, celui-là, il doit être dans les ténèbres, il a raison. La seule raison pour qu'un homme, une femme ne soit pas dans les ténèbres, c'est de venir à Jésus qui est la lumière du monde et qui a porté son péché sur la croix. Là, le diable commence à ne plus avoir raison. Mais judiciairement, légalement, tous les pécheurs qui naissent sont esclaves des ténèbres, esclaves du diable, du prince de ce monde. Le monde gît sous l'empire du malin. Judiciairement et légalement, c'est valable. Et il n'y a que l'œuvre de Jésus à la croix qui déjoue cette astuce judiciaire et légale dans laquelle nous sommes emprisonnés à la naissance. Il fallait dire à Jésus que je monte à Jérusalem pour y souffrir, pour y mourir, et ainsi venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire nos vies, c'est-à-dire nos âmes. Enfin, et nous l'avons lu tout au début, le septième point, c'est que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il dira à Pilate, donc tu es tout de même roi, reprit Pilate. Oui, tu as raison, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. Face à Pilate et à sa philosophie relativiste, voyez-vous, vous savez ce que c'est la relativité, le relativisme en philosophie. C'est à chacun sa vérité, il n'existe pas de vérité absolue. Eh bien nous avons la chance de croire dans le Seigneur qui nous a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » À chacun sa vérité, vous vous rendez compte? Alors si je peux me permettre à celui qui me dira cela un jour, de lui dire « t'es un âne ». Et s'il me dit « comment tu me parles toi ?»« écoute, à chacun sa vérité, pour moi t'es un âne ». Ah oui, à chacun sa vérité. Donc t'es un âne, t'es pas un homme, t'es un âne. À chacun sa vérité. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. On ne peut pas changer ça, vous voyez. Il y a une vérité absolue. Et on veut nous faire croire qu'il y a plusieurs vérités. Le relativisme. Et Pilate, il est déjà dans cette optique-là, tellement il a l'esprit tordu. Mais très vite, l'attitude de Jésus va le gêner. L'attitude de Jésus, celui qui est devant lui, il sait très bien que ce n'est pas n'importe qui, que c'est quelqu'un de spécial. Et il est gêné par la présence de Jésus. Et Jésus a rendu témoignage ainsi à ce que dit la parole concernant Dieu, concernant l'Esprit de Dieu, concernant toutes les grandes vérités qu'il a pu énoncer à travers ses paraboles, à travers son enseignement. Il a confirmé à plusieurs reprises la Genèse, avec par exemple quand il parle du mariage et d'Adam et Ève. Il part de la Genèse. Il a confirmé la parole inspirée. Celui qui aime la vérité écoute ce que je dis. Il atteste donc la parole inspirée depuis Moïse, citant des textes bien souvent, y compris Ésaïe, dont il est lui-même l'accomplissement. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voyez-vous, la mission de Jésus, elle est évidemment en étroit rapport avec chacun de nous sous divers aspects qu'on a soulignés ce matin, et le principal étant notre salut, notre équipement pour le service pour Dieu, notre sanctification, on l'a vu, notre séparation, le prix de l'engagement aussi dans la vie du disciple. Jésus est venu pour toutes ces choses. Il est venu pour nous donner tout le nécessaire, toute la nourriture, tout l'équipement, tout le pack intégral de ce que nous avons besoin en tant que chrétiens, tout l'attirail militaire, en quelque sorte, dont nous avons besoin pour vivre en mission, en immersion, commando dans ce monde où lui-même est venu une première fois. Je suis venu dans le monde. Et nous sommes, frères et sœurs, dans le monde. Ne l'oublions pas, nous incarnons la mission de Jésus, la mission d'évangélisation, la mission du salut envers un monde qui a besoin de nous, qui a besoin de l'Église, qui a besoin du Christ, qui est le chef de l'Église. Amen.